Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir un signe.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens, très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Une journée particulière, c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Pendant une heure, une invitée revient sur un jour important de sa vie. Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Aujourd'hui, je reçois Marilène Patou-Matisse. Bonjour Marilène Patou-Matisse.
Bonjour.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier sur France Inter.
Marilène Patou-Matisse, vous êtes préhistorienne, directrice de recherche au CNRS rattachée au département préhistoire du Muséum national d'histoire naturelle. Comment vous est venu le goût de la préhistoire ?
Je crois que c'est la curiosité qui m'a amenée à la préhistoire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est un peu mystérieux.
Ouais.
Parce que c'est avant l'histoire.
Ouais.
Avant l'histoire, ça veut dire quoi ? Voilà, est-ce que c'est avant l'écriture ? Bah oui et non, puisqu'il y a quand même beaucoup de peuples qui n'ont pas eu d'écriture pendant très longtemps. Donc il y a un côté le pré, voilà, les origines. Et c'est ça qui m'a intéressée, donc d'aller essayer de capter quelque part des indices qui me permettent de comprendre les origines des choses, aussi bien des êtres vivants comme les animaux, les plantes et bien sûr nous.
Marilène Patou-Matisse, vous avez choisi comme journée particulière le 10 octobre 1985. Ce jour-là, vous partiez à la rencontre des San. Ce sont les derniers Bushmen du Botswana, un des derniers peuples de chasseurs-cueilleurs. Marilène Patou-Matisse, ce sont les sons que vous avez ramenés. Je crois qu'on est en train d'entendre là des San du Botswana.
Tout à fait, oui.
Avec leur langue à clic.
Oui. Alors, bon, je suis très très émue parce que je ne les avais pas réentendus depuis très longtemps. Donc, je suis vraiment très émue. Pour moi, c'est vraiment une journée particulière. C'est parce qu'elle a changé ma vie. Ce peuple a changé ma façon de voir le monde. Donc c'est très émouvant. Et comme vous pouvez l'entendre, ce qui est incroyable, parce que la vie est pas forcément facile pour eux, n'était pas forcément facile pour eux. Ils sont joyeux.
Oui, ça, ils rigolent. On les
ils rigolent. Et je pense en plus que cette langue avec ses clics, hein, comme ça, c'est quelque chose de tout à fait original. Et voilà, il y a peut-être pas d'écriture chez eux, c'est un peuple de tradition orale, mais il y a cette complexité du langage. Chaque clic modifie bien sûr, c'est un son qui modifie le mot, et c'est très complexe. Je suis incapable, bien entendu, de parler le Kung, parce que là, on est chez le Kung Zouazi, au nord du Kalahari, au Botswana. Et vraiment, c'est émouvant, je pense, quelque chose avec ce temps gris qu'on a depuis quelques jours sur Paris et tout, et je pense qu'il va durer. Là, ça met du soleil.
Ça vous donne du baume au cœur.
Ça met du soleil dans le cœur, tout à fait.
Marilène Patou-Matisse, en 85, vous étiez une jeune doctorante, vous veniez de soutenir votre thèse. Qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi partir dans cette aventure folle au Botswana, dans le désert du Kalahari? Qu'est-ce qui vous prend?
J'étais en train de réfléchir au fait que j'avais passé une thèse qui était sur les comportements de chasse, de cueillette, etc., surtout de chasse, de subsistance, donc des hommes préhistoriques, en particulier des Néandertaliens, pré-Néandertaliens. Et je me suis dit, mais je ne connais rien. Je suis quelqu'un qui est né à Paris, qui a le derrière sur sa chaise, qui va jamais à la chasse, qui ne connaît rien. Voilà, et donc j'ai dit ça c'est pas pensable, parce que je pense que lors de mes interprétations du matériel osseux, je suis une spécialiste, je suis archéologue, comme on dit, spécialiste des ossements d'animaux, vous me montrez un os, je vous dis ce que c'est, et on cherche des indices là aussi pour retrouver la chasse et tout, mais en fin de compte, les interprétations, je me suis dit, il y a peut-être des choses que je ne sais pas, que je peux pas proposer, parce que je ne sais pas que ça existe. Et j'ai dit, il faut absolument que j'aille m'ouvrir l'esprit. Faut que j'aille voir comment ça se passe sur le terrain, chez les derniers peuples chasseurs-cueilleurs. Et en préhistoire, on est plutôt, surtout avec les Néandertaliens, dans un paysage assez ouvert, assez steppique. On n'est pas en forêt tropicale et tout. Donc, je cherchais quelque chose d'ouvert. Et j'ai eu la chance de rencontrer Serge Bahuchet, que j'ai côtoyé et que je côtoie encore maintenant au Musée de l'Homme, qui m'a conseillé d'aller chez les San, donc du Kalahari, d'aller au Botswana, parce que c'était aussi peu dangereux comme pays. Parce que c'est clair que là, d'aller Zimbabwe, l'ancienne Rhodésie, ou d'aller en Namibie et tout ça, bon, avec la Swapo, enfin, c'était très des périodes un peu tourmentées, ou bien sûr l'Afrique du Sud. Donc, il m'avait conseillé ça, et c'était un très bon conseil.
Alors, pas facile de les trouver, ces San dans le désert du Kalahari, c'est plusieurs jours de piste, ce sont des nomades, il fallait trouver où ils étaient campés à ce moment-là.
C'est quelque chose, oui, qui est absolument incroyable. Donc, on avait mis, parce que j'étais avec, au départ, on n'était que deux, avec une très bonne amie, Marie-Laurence Nanty, et on était partis un peu, les gens ont dit deux folles qui vont d'abord mourir. Et après, d'autres personnes nous ont rejoints, mais au départ, on était toutes les deux. Et c'est vrai que c'est quelque chose de fou, parce qu'on s'est posé, on a installé nos tentes, nos deux petites tentes et tout, et puis on a attendu. Et ils sont venus. Ils sont venus le soir, ils sont venus. Et comme dans l'extrait qu'on a eu tout à l'heure, Et là, ça part. C'est ça qui m'a frappée. Il parlait. Alors, on comprenait rien, hein, évidemment. Et voilà. Et donc, on avait amené... Moi, j'étais contre. Ça veut amener les t-shirts, les Coca-Cola, les sautises, pareil. Mais par contre, alors, c'est pas très bien. Je sais qu'il faut pas fumer. Mais par contre, on avait amené du tabac, parce que ce sont des grands amateurs de tabac. Et donc, ils se sont installés autour de notre feu, parce qu'on fait un feu, hein, comme les préhistoriques. On a fait notre petit feu. Et ils se sont installés. Et on a partagé. Donc, on a fait du thé. Et on a partagé le thé. Et on a partagé du tabac.
Alors, Marilène Patou-Matisse, pendant que vous fumiez des cigarettes avec les San assises autour du feu, avec les San du Botswana, eh bien, Nina Hagen reprenait en punk, en une version punk de My Way.
Yeah.
Hélène Batoumatis, Nina Hagen, c'est votre genre de beauté?
Ah oui. Ah oui, oui. Parce que voilà, c'est un peu comme les âmes, quoi. C'est la force. Quelle que soit la situation, les moments difficiles, on a mal au cœur, ça va pas, et on va pas larmoyer, ça va sortir des tripes, on va réagir, on sort tout ça. Je trouve que c'est stimulant, quoi. C'est-à-dire que c'est une situation triste, la chanson est hyper triste quand même.
Ouais.
C'est un désastre. Et là, malgré tout, on va prendre ça à bras le corps et on va sortir ça de nos tripes et après, on peut faire face.
Et ça ressemble aux sannes.
Oui, je pense que ça ressemble à beaucoup de peuples comme ça, qui sont des peuples qui n'ont pas forcément des vies faciles, encore plus maintenant parce qu'on les persécute, soit on prend leur terrain, soit on les relocalise dans des villages, etc. Et donc, qui réagissent, là il y a plein de peuples en ce moment qui se battent, voilà, qui n'ont pas grand chose, et ils ont cette force intérieure. Et justement, ces chansons, vous savez, bon, c'est pas les rythmes évidemment des salles, de leur musique ou de leurs chansons, mais il y a quand même ça, c'est-à-dire que voilà, tout à l'heure je le disais, ils sont gays, c'est-à-dire que à un moment donné, la tristesse peut complètement vous anéantir et vous n'allez plus pouvoir réagir. Et c'est très triste, la personne n'y peut rien. Mais quand on peut sortir les choses, je crois que c'est quelque chose qui permet d'avancer.
Alors Marie-Hélène Batoumatis, vous parlez justement de la musique des sannes. Donc je rappelle que votre journée particulière, c'est le 10 octobre 1985. Ce jour-là, vous êtes une toute jeune préhistorienne et vous partez rejoindre donc ce groupe de bushmen dans le désert du Kalahari au Botswana, un des derniers peuples de chasseurs cueilleurs, et vous parliez justement de leur musique sans comparer à Nina Hagen. Ben justement, écoutons leur musique. Ça marche, Marie-Hélène Batoumatis. Les sannes sont un peu punk, eux aussi.
Bien sûr.
Hein, ça marche.
Bien sûr.
Alors là, on les entend jouer de l'arc
musical.
De l'arc musical.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fin de compte, si vous voulez, déjà, ce peuple chasse avec des arcs. Ils sont remarquables pisteurs et tout. Et puis, comme tous les peuples chasseurs-cueilleurs, ils prélèvent dans la nature tout ce dont ils ont besoin pour vivre et aussi pour faire de la musique. Ils vont prendre des oranges manquées qu'ils vont évider pour faire aussi comme une espèce de flûte. Voilà, ils vont faire des flûtes. Et là, c'est pareil, ils vont utiliser cet arc, mais en pinçant les cordes, qui va faire du son. Ils vont récolter comme ça plein de choses. Ils vont faire pour les danseurs, mettre autour de leurs chevilles des sonailles. En fin de compte, ce sont des cocons d'insectes qui sont bien secs. Et c'est vrai que c'est assez saccadé. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas du tout musicien. Il y a des musiciens qui s'exprimeraient mieux que moi. Et c'est saccadé et tout. C'est pour ça qu'on retrouve ce côté punk et tout. Et aussi toujours dans cette énergie. Il y a du positif, il y a de l'énergie. Alors, je veux pas tomber dans le côté un peu bisounours en disant tout est super. Non, c'est justement parce que c'est peut-être pas forcément super que c'est comme ça.
Alors, les sannes adorent danser. Ça m'a beaucoup plu quand j'ai lu votre livre sur les sannes, qui d'ailleurs s'appelle Une mort annoncée. Donc, ça veut dire que les choses ne sont vraiment pas si simples, qu'ils sont en train de disparaître.
Quand j'avais écrit ça, déjà, c'est
voilà,
sûr que...
Voilà, paraculturation.
Exactement.
Mais alors, ils adorent danser, ils adorent jouer. Ça m'a beaucoup plu. Oui. J'imagine un peuple comme ça. Ils n'ont pas de notion du temps, ne font pas de réserve. Le présent, le futur, le passé, c'est flou.
Oui, c'est vrai que c'est quelque chose de particulier, parce que moi, je savais que la curiosité toujours de dire mais avant, mais avant ils savent pas avant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont pas. Moi, quelque chose qui m'étonnait, et j'avais envie de comprendre pourquoi, mais j'ai pas réussi. C'est là, sur Dilo Hill, pas loin de où on était, il y avait ces peintures rupestres magnifiques, superbes, qui sont des peintures des sannes. De leurs ancêtres à ceux qui étaient là. Ils ne se rappellent pas. Donc, c'est quelque chose que, vous savez, il y a toujours cette histoire, on parle beaucoup de mémoire. Ce qui est important, pour moi, c'est la transmission et la mémoire. Et la tradition orale, contrairement à ce qu'on croit par rapport à l'écrit, transmet aussi beaucoup de choses. Et là, il y avait une rupture de transmission. en tant qu'archéologue, les personnes qui travaillaient sur ces peintures et tout, il y avait même des sites archéologiques, on sait très bien que c'était les San et tous leurs ancêtres, parce que ce sont les premiers d'Afrique australe, hein, c'est le premier peuple d'Afrique australe, c'était eux, avant les Bantous, avant tout. Et ils se rappelaient pas. Donc il y a eu rupture dans cette mémoire.
Et pourquoi, et pourquoi cette rupture?
Alors pourquoi cette rupture? C'est ça qui est, c'est difficile, parce que est-ce que c'est parce que au niveau du temps, la notion, ça va avant pour compter, ils faisaient 1, 2, 3, plusieurs.
Après 3, il n'y a pas 4.
Non, 1, 2, 3, plusieurs. Et là, la notion du temps, alors, je pense qu'il y avait, devait y avoir des points de repère, c'est-à-dire que peut-être la chasse au plus grand coudou, je ne sais pas. Bref, des mythes, des trucs, des trans... Mais en tout cas, pour ce groupe-là, il n'y avait pas cette mémoire. Comme si, quelque part... ils s'appropriaient pas les choses du passé comme nous on peut le faire avec notre patrimoine, hein, en ce moment là, notre patrimoine. Moi je crois qu'on a un patrimoine universel, mais bon. Et donc là, ils avaient pas cette notion. Peut-être c'est ça aussi, c'est-à-dire que si vous voulez, c'est un autre monde, c'est une autre façon, enfin c'était une autre façon de penser, une autre cosmogonie, etc. Donc je pense qu'il faut pas vouloir que ces peuples pensent exactement comme nous et les mêmes intérêts.
Que nous.
Parce que la réalisation, c'est ça qui compte, peut-être plutôt que la conservation.
Une civilisation qui s'attache à développer ses valeurs propres paraît n'en posséder aucune pour un observateur formé par la sienne à reconnaître des valeurs toutes différentes. Il lui semble que chez lui seulement, il se passe quelque chose, que sa civilisation seule détient le privilège d'une histoire ajoutant constamment des événements les uns aux autres. Pour lui, il n'y a que cette histoire qui offre un sens, en prenant ce terme, dans la double acception de signifier et de tendre vers un but. Dans tous les autres cas, croit-il, l'histoire n'existe pas ou à tout le moins elle piétine. On pourrait dire que les cultures ressemblent à des trains qui circulent plus ou moins vite, chacun sur sa voie propre et dans une direction différente. Ceux qui roulent de conserve avec le nôtre nous sont présents de la façon la plus durable. Nous pouvons à loisir observer le type des wagons, la physionomie et la mimique des voyageurs à travers les vitres de nos compartiments respectifs, mais que sur une autre voie oblique ou parallèle, un train passe dans l'autre sens, et nous n'en percevrons qu'une image confuse et vite disparue, à peine identifiable pour ce qu'elle est, réduite le plus souvent à un brouillage momentané de notre champ visuel qui ne nous livre aucune information sur l'événement lui-même et nous irrite seulement parce qu'il interrompt la contemplation placide du paysage, servant de toile de fond à notre rêverie.
Claude Lévi-Strauss tombait, pique Marilène Patou-Matisse. C'est un extrait de la conférence Race et Culture qu'il a donnée à l'UNESCO en 1971. J'aime beaucoup l'idée des trains qui se croisent, je vous avoue. C'est une très bonne idée.
C'est formidable, parce que nous, on travaille beaucoup sur cette notion de buissonnement, à la fois buissonnement humain, au sens biologique, je parle en préhistoire, mais aussi buissonnement des cultures, c'est-à-dire qu'en même temps, tout le monde ne fait pas la même chose en même temps.
Alors expliquez-vous, parce que ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une conception linéaire de l'histoire et de l'évolution, mais une conception buissonnante.
Tout à fait. Si vous faites quelque chose de progressif, c'est comme si on allait vers le meilleur, comme si nous sommes meilleurs, par exemple, que nos ancêtres. Et ça, c'est complètement faux, parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a des allers-retours, c'est-à-dire qu'il y a des innovations qui apparaissent, qui vont disparaître, qui vont réapparaître, etc.
Et qu'en même temps, toujours... à certains endroits, il va y avoir des évolutions, à d'autres, elles arriveront avant ou après.
Il y en a
qui
apparaissent.
C'est ça la marche de l'humanité.
Bien sûr, et ça montre surtout le fait qu'il y a une diversification des réponses, parce que ça aussi, Lévi-Strauss avait beaucoup insisté sur ça, c'est-à-dire que l'homme, ce qu'il va, il est confronté à certaines choses, il va répondre. Et en fin de compte, selon les endroits, selon le temps différent, on a différentes réponses à apporter. Et les hommes ont toujours, quels qu'ils soient, ils ont répondu. Il n'y a donc pas d'inférieur et de supérieur. C'est ça aussi que dénonçait Lévi-Strauss, avec qui je suis totalement d'accord.
Et c'est ça aussi que vous avez compris avec les San. C'est-à-dire,
exactement.
C'est ça que vous comprenez. C'est pour ça que ça vous a... Vous dites, Marilène Patou-Matisse, que ce voyage avec les San pendant 3 mois vous a construit. C'est parce que vous avez compris que là, il fallait bannir vraiment la hiérarchisation des cultures. Que ça ne marchait pas.
ayant fait moi des études scientifiques, hein, je suis géologue de formation, donc on était beaucoup dans ce côté très technologique, très progressif dans cette évolution, mais une évolution technologique, mais la technologie, les produits que fait l'homme ne sont pas seulement technologiques, que l'homme n'est pas que technique, qu'il y a aussi autre chose de plus profond, des choses comme l'imaginaire, la construction à la fois d'idées, à la fois d'images, etc. Donc il y a plein d'autres choses, c'est pas que l'objet manufacturé. Et c'est ce que j'ai appris chez les San, qui avaient des connaissances extraordinaires de terrain dont ils avaient besoin pour vivre. Vous voyez un tout petit taver qui dépasse, et en dessous c'est un énorme zamamelon, c'est-à-dire que c'est ça qui va vous permettre en plein Kalahari de boire. Mais vous, si vous n'avez pas que ce petit truc qui dépasse, qui ressemble à rien, c'est en dessous de l'eau, et que c'est, il y a plein de connaissances, et puis cette richesse des contes, des mythologies, des tout ce qui fait l'homme. Ça, je me suis dit, il faut faire très attention et ne pas baser, surtout nous en préhistoire, c'est du matériel, ne pas classer les humains en fonction des productions technologiques, en fonction des produits, manufacturés, entre guillemets. C'est pas parce qu'un l'outil apparaît un peu mieux que l'autre outil que c'est celui qui l'a taillé est inférieur ou supérieur. Et ça, c'était très important pour moi.
Et Marilène Patoumatis, en tant que préhistorienne aussi, vous avez mené toute une réflexion sur le sauvage et le préhistorique et sur ce qu'ils avaient de commun. Et vous avez compris, en fait, que les deux étaient stigmatisés de la même façon pour les mêmes raisons. C'est-à-dire on les pensait des peuples sans culture ou sans histoire, parce que pas d'écriture. C'est ça.
Exactement, c'est-à-dire que ça m'a amené là aussi à cette réflexion, et j'ai constaté en avançant dans ma carrière professionnelle, en travaillant sur la préhistoire et leur comportement de ces préhistoriques, en particulier dans les Antilles, que il y avait quelque chose qui était incroyable, c'est que tous ces peuples que j'ai beaucoup lu de travaux ethnographiques, d'Escola, bien sûr Lévi-Strauss, et donc je me suis dit, il y a un parallélisme à faire, il y a quelque chose qui, ils sont ensemble, c'est-à-dire que avant que les préhistoriques ne soient reconnus en tant que tels, donc au milieu du 19e siècle, les peuples dits sauvages, je le dis avec beaucoup d'affection, les peuples dits sauvages étaient considérés comme non civilisés. Et là, on a eu le préhistorique qui est arrivé. Qu'est-ce qu'on a fait? On a comparé les deux. On a vu que les aborigènes d'Australie, par exemple, faisaient des racloirs en silex qui ressemblaient aux racloirs que faisaient les Néandertaliens, etc., etc. Alors, d'un seul coup, les préhistoriques sont devenus non civilisés, parce qu'ils ressemblaient, et puis les non civilisés sont devenus premiers. Vous rappelez le débat sur le musée des arts premiers, alors qu'ils sont pas premiers, ils ont eu toute une histoire. C'est ça que je voudrais dire aussi, si vous le permettez, c'est que les peuples actuels qui veulent maintenir des traditions, ce sont pas des peuples préhistoriques fossiles, ils ont toute une histoire, et ça c'est très important. Il faut absolument pas faire un comparatisme qui amplifie justement ce côté infériorisation. C'est pas, ils sont pas du tout, ils ont toute une histoire, ils ont évolué, et ça c'est très important. C'est ce regard sur les deux me permet de voir que malheureusement ils se sont dévalorisés l'un l'autre pendant tout ce 19e et jusqu'au milieu du 20e
siècle, et comme les mêmes facettes, deux facettes du même miroir.
Voilà, parce que
le miroir de quoi, Marilène Patoumatis?
Ben de l'homme blanc occidental moderne. Voilà, c'était ça, c'était le miroir à l'époque. Maintenant ça a changé, mais jusqu'à très longtemps c'était ça. C'est-à-dire que en fin de compte, comme dirait Galton, c'est même pas l'homme blanc, l'homme à la femme un peu en dessous quand même, l'homme blanc occidental qui est le meilleur, c'est l'aristocrate anglais. On peut aller toujours plus loin dans la hiérarchisation des peuples, des cultures, etc. Donc je pense qu'il faut là faire très attention de pas tomber dans ce travers et de regarder les cultures, les productions à l'aune de l'environnement.
Avion nada ni kwenye kari ya le kasa. chance mi aloro Quelo kamu la ke dunyaro kamu mini kurudu la da momini la da ni kwanye kari ali ka chance mi aloro Quelo kamu la ke dunyaro kamu mini kurudu la da katere mbalu ni masini wodu la da kuka nombodo ni taro Ah, si tembe na kela moko ya ni moso taro Porosila kokele mabi molu koni make atuteke kamusonke alimamini o make kono musole alimamini soruna Nyakumani fola kasinka kumani ufanuye Kanima, duda linkanima, alaka feme fila fila le dan komisali. Kasani duguda, kasule teleda, kakeni mosoda, kanambe mara maso mosola, kono kusite penani mosote.
Marilène Patou-Matisse, vous reconnaissez, c'est une reprise de James Brown.
Oui, je trouve ça c'est superbe. C'est là où on voit, regardez le mélange de cultures, il y a l'appropriation de certaines cultures par d'autres, et ce mix qui fait quelque chose d'extraordinaire. Donc, vous voyez, c'est quelque chose, la diversité est extraordinaire là, parce qu'on pourrait rester qu'avec celle de James Brown, et là, on a autre chose.
On a Sekouba Bambino.
Exactement, c'est magnifique.
Qui décide de rechanter, de chanter
cette
chanson.
Les deux versions sont superbes.
Ouais. Jusqu'à 15h sur France Inter, c'est la journée particulière de la préhistorienne Marilène Patou-Matisse. Marilène Patou-Matisse, vous avez un penchant, je crois, pour les humains que l'on dit inférieurs, le sauvage, le néandertal. J'ai l'impression même que vous avez de l'empathie pour ces êtres-là.
Oui, j'ai de l'empathie, en tant qu'envers se peut, vers tout ce qui me paraît injuste.
Ouais.
Et en plus, si derrière tout ça, ça provoque cette injustice, provoque des grandes souffrances. Donc ça peut être aussi, pas forcément des peuples dits sauvages ou des préhistoriques, ça peut être tout à chacun de ma vie quotidienne. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est important d'essayer un tout petit peu, avec ces petits moyens, de faire prendre conscience, de déconstruire des images, des présupposés, des préjugés. Quel que soit, ça soit vis-à-vis des ce qu'on appelait avant les races, vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des handicapés. Et dans notre domaine, j'ai cette chance de pouvoir apporter une toute petite pierre à cet édifice, en essayant de me baser sur ce que j'ai peu étudié, ce que j'ai trouvé.
Alors vous avez déconstruit le mythe de Néandertal, de l'homme de Néandertal, c'est-à-dire vous avez déconstruit toutes nos construction mentale autour de cet homme de Néandertal, parce que pendant longtemps, il n'y en avait, vraiment, il n'y en avait que pour l'homme de Cro-Magnon.
C'était au temps de la préhistoire, il y a 200 000 ans, vint au monde un être bizarre, proche parent de l'orang-outan, debout sur ses pattes de derrière, vêtu d'un slip en peau de bison. Il allait conquérir la terre, c'était l'homme de Cro-Magnon.
L'âme de Cro,
l'âme de Mar,
l'âme de Nion,
l'âme de Cro-Magnon.
L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon.
L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon.
Marilène Patoumatis, vous avez aussi chanté cette chanson.
Oui, oui, oui. Ça, j'ai chanté cette chanson.
En colo.
Tout à fait.
On l'a chanté tous. Marilène Patoumatis, est-ce que c'est vrai que sur votre bureau du Muséum National d'Histoire Naturelle, il y a une photo de vous déguisée en femme de Néandertal?
Alors, c'est pas déguisé, c'est ce qu'on fait beaucoup maintenant, c'est le morphing. Vous êtes transformé, c'est-à-dire qu'on va prendre par exemple les caractéristiques des Néandertaliens qu'on va mettre sur votre visage. Et donc c'est pas vraiment un déguisement, ça c'est la machine qui va vous mettre vos arcades très importantes et tout comme il y avait les Néandertaliens, qui va vous faire un peu plus robuste au niveau du visage, un peu plus prognate, etc. Donc on va prendre les caractéristiques des Néandertaliens pour les mettre sur votre visage.
Alors justement, à quoi ressemblaient les Néandertaliens? Parce qu'ils avaient, ils ont souffert d'un délit de sale gueule en fait.
C'est-à-dire que oui, ils ont été trouvés trop tôt, ils ont été trouvés en 1856 avant la théorie de l'évolution de Darwin. Donc là, ça ne pouvait être qu'un homme moderne, donc comme il avait une sale gueule, excusez-moi l'expression familière, parce qu'il ne ressemblait pas du tout à nous, donc il avait ce crâne complètement élargi vers l'arrière, étendu, hein, avec une espèce de chignon occipital vers l'arrière, ses grosses arcades au-dessus des orbites, hein, au-dessus des yeux, pas de menton, vous voyez, une mâchoire extrêmement robuste, un crâne très robuste. Bref, c'était quand même quelque chose qui était un peu surprenant. Donc, on l'a tout de suite pris, les anthropologues de l'époque, les médecins et tout, on dit, bah voilà, c'est un crétin.
D'accord, mais le Néandertal, l'homme de Néandertal, si je comprends bien, a souffert de racisme d'une certaine façon.
C'est-à-dire que, si vous voulez, en fin de compte, il est rentré dans cette classification de l'époque, qui était une classification ce qu'on appelait à l'époque des races humaines. Donc, il y avait une échelle où on mettait par rapport, on faisait plein de mesures, l'anthropologie, la physique était à son top, on faisait beaucoup de mesures et on comparait ces mesures alors de tous les crânes, des aborigènes, des esquimaux, des blancs, des allemands, des français, enfin. Et puis on prenait ces mesures et on comparait avec les grands singes. Et puis, en fonction des résultats, on vous mettait plus proche des grands singes ou plus éloigné. Et forcément, comme c'est l'Occidental qui faisait ça, donc on s'est retrouvé avec ces classifications que tout le monde sait, que des races inférieures. Alors, les inférieurs, c'était Messane, les aborigènes, etc. Après, les noirs, les jaunes, vous savez, la fameuse classification. Et donc, c'est ça. Et quand on a reconnu l'homme préhistorique, eh ben, on a fait la même chose. C'est-à-dire qu'on a essayé de le placer un peu dans cette hiérarchie. C'est pour ça que Néandertal, par rapport après à Cro-Magnon, le crâne qu'on va découvrir et tout, et forcément, il va être mis dans les inférieurs, il va être plus proche du gorille, lui. Ouais. Lui, on va très longtemps le considérer comme très proche du gorille.
Dans l'idée de retrouver aussi le chaînon manquant, c'est-à-dire ce qui s'est passé entre le singe et l'homme moderne.
Exactement, vous avez tout à fait raison. Parce que lorsque Darwin, pas en 59, mais en 1871, va écrire son fameux ouvrage sur la descendance de l'homme, où il va pas du tout dire qu'on descend du singe, ça c'est ceux qui sont opposés à Darwin qui ont dit ça à l'époque, mais que nous avions un ancêtre commun. Alors qu'est-ce qui va se passer, puisqu'on a reconnu, on sait qu'il y a les fossiles, c'est vrai qu'il y a des ancêtres, tout ça, on va chercher ce fameux chaînon manquant entre le singe et l'homme, puisqu'on faisait cette classification par rapport au grand singe.
D'accord.
Et donc on va partir à la recherche. Alors là, Néandertal, c'est le candidat idéal, c'est super, lui, il va tout de suite avoir la médaille.
Voilà, Néandertal.
Il est passé par tout ça. Alors au départ, un crétin, ensuite il est devenu un singe, après un chaînon manquant, après un précurseur de l'homme, quand on a commencé à regarder ses outils. Voilà, donc il a toujours été
autre chose que ce qu'il était, jamais voilà. Pris pour ce qu'il était.
Je suis Ao. Je vis là où personne ne vient jamais. Sur une terre gelée, dure comme la pierre, où les grands froids sont éternels. Bor, mon ami. Nous nous connaissions depuis que nous avions vu fleurir 11 fois la plaine. Le chemin du retour a été long, mais nous ramenons beaucoup de viande. Elle apaisera les miens des morsures du souffle glacé qui emporte l'âme des vivants.
Marilène Patoumatis, vous avez reconnu cet extrait du film
de Jacques Malaterre.
Oui, Ao, l'homme
dernier Néandertal.
Le dernier Néandertal. Et... vous avez été conseillère scientifique sur ce film. Et là, justement, on représente, on voit l'homme de Néandertal comme jamais on l'avait vu auparavant. L'homme de Néandertal tel qu'il était, tel qu'on l'a découvert et compris, grâce à vos recherches, entre autres, Marie-Hélène Patoumatis.
Oui, à d'autres collègues, hein, je voudrais pas, c'est pas toute seule, c'est, mais l'histoire est un travail collectif, mais c'est vrai que, là, dans ce film, ce que j'ai essayé de conseiller, parce que c'est un très beau film de Jacques Malaterre, un très très beau film, plein de sensibilité, c'est que, on remet des choses, bon, on a peut-être pas pu tout mettre, parce que c'est un film, c'est une fiction, donc, on va pas mettre que, c'est pas un documentaire.
Non.
Mais, ce qui est important, c'est, voilà, de redonner un visage,
humain.
Quelque part.
Pour le humain, coup, humain.
Et qui, parce que, en fin de compte, vous savez, les choses évoluent, c'est le cas de le dire, dans les mentalités, tout change. Et les nouvelles découvertes, ces dernières années, ont beaucoup modifié ça. C'est-à-dire que, il y a eu une conjonction de fait, les planètes se sont un peu alignées, là, pour Néandertal. C'est-à-dire qu'on a trouvé beaucoup maintenant, on a beaucoup de matériel, de nouvelles méthodes d'analyse, etc., qui font qu'on connaît mieux sa façon de vivre. On se rend compte que il y avait plein de choses qui demandaient beaucoup de capacités cognitives, c'est-à-dire une grande intelligence, si on peut parler simplement, des choses typiquement humaines, comme nous, et mis bout à bout, quand on a commencé à dire à tout moi, en 2006, mon premier ouvrage, on m'avait dit que j'étais un peu naïve parce que j'avais dit Néandertal, une autre humanité. Et en fin de compte, les découvertes et tout affinent ça, confortent ça. Et en plus, il y a eu tous les travaux sur l'ADN qui, là aussi, ont apporté un nouveau regard très important sur lui.
Alors justement, ce qu'on a compris, c'est que c'était un homme intelligent. C'est une humanité, une autre humanité. Comme vous dites, un homme intelligent qui avait des pensées métaphysiques, symboliques, qui enterrait ses morts, qui avait un culte des morts, culte des ancêtres, qui avait un langage articulé, qui avait un sens du collectif, de l'entraide, qui ne laissait pas les handicapés sur le bord du chemin, qui faisait de la musique, on a trouvé une flûte, c'est fou tout ce qu'on a découvert sur cet homme de Néandertal.
Oui, on a trouvé énormément de choses. Des choses aussi très intéressantes sur son mode de vie sociale, par exemple grâce à l'ADN, par exemple certains groupes. Alors là aussi, je dis attention, Néandertal, c'est au moins 350 000 ans.
Et l'homme de Néandertal
exactement,
a existé pendant 350 000 ans.
Au moins 350 000 ans. Donc ce sont des Néandertaliens, ceux qui vivaient en Occident, ceux qui vivaient au Proche-Orient, ceux qui vivaient en Crimée où j'ai beaucoup travaillé. Tout ça, c'est des groupes différents et dans un espace-temps aussi différent. Donc il y a plein de choses. Mais ce qui est très important, c'est montrer justement qu'il y a déjà des traditions culturelles, déjà des traditions régionales, que ça varie. Aux mêmes périodes, bah, ceux de Crimée, c'est pas les mêmes que ceux en France au niveau des traditions culturelles. Et aussi, donc, je disais, au niveau social, on a mis en évidence que dans certains groupes, la patrie-localité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le groupe d'El Cidrone en Espagne, on avait 13 Néandertaliens qui ont été découverts, des squelettes. 12, l'ADN a donné des bons résultats. Et qu'est-ce qui s'est montré? Que ce groupe était apparenté. Et que, ils étaient tous un lien de parenté. Et que les femmes venaient de l'extérieur. Vous voyez ce que c'est ça, patrie locale. Et ça, c'est très intéressant parce que nous,
ça veut dire qu'on allait chercher les femmes à l'extérieur du clan.
C'est-à-dire que les femmes venaient, et c'est intéressant parce que la femme était donc locutrice. Supposons qu'elle vienne d'un clan qui a une tradition un peu différente et tout. Donc c'est la transmission par les femmes, à la fois peut-être de dialecte, à la fois peut-être aussi de savoir-faire. Donc ça, c'est intéressant et c'est l'ADN qui nous a montré ça. Parce que nous, à partir des vestiges, on voit rien. Vous voyez, au niveau des outils et tout. Bref, on a comme ça des fenêtres qui s'ouvrent grâce à ces nouvelles technologie. Et ça, c'est intéressant parce que là, d'un seul coup aussi, on rentre dans un côté plus intime de ce que pour moi fait l'homme. Parce que bon, c'est bien de savoir qu'il taillait des outils, mais ça, c'est pas une surprise.
Non. Hein,
même si ces outils sont plus beaux, machin. Bon,
qui maîtrisait le feu.
Maîtrisait le feu, c'est pas une surprise. D'ailleurs, ses prédécesseurs, les Homo erectus, maîtrisaient le feu. Donc, mais là, il y a plein de choses qui apparaissent, notamment aussi la discussion sur l'art. Là, on va beaucoup discuter. Est-ce que Néandertal était déjà un artiste?
Et alors,
justement, il y a les deux écoles à ce moment, parce que on a découvert des grottes en Espagne et on a montré que les peintures qui étaient dessous, c'était plus vieux, parce que c'est dessous, donc plus vieux que 60 000 ans. Et à cette époque, en Espagne, il n'y a pas Homo sapiens. Homo sapiens, Cro-Magnon, si vous préférez, vient du Proche-Orient, il arrive dans les Balkans vers 45 000 ans. Donc là, il n'y a que des Néandertaliens. Il y a les Néandertaliens qui vivent en Europe, en Eurasie, hein, jusqu'en Ouzbékistan et au Proche-Orient. Donc là, en Europe, à cette époque, il n'y a que... Donc c'est eux les auteurs
De ces fresques.
Voilà. Sauf que, vous savez, comme ça a toujours été une difficulté de reconnaître certaines choses, l'art réalisé comme Chauvel, Lascaux, Altamira, tout ça, par les hommes préhistoriques, n'avait pas été accepté au départ. En 1879, Altamira, c'était une vraie bataille pour dire que si, c'est les hommes préhistoriques qui ont fait les bisons d'Altamira. Et ça a été jusqu'à attendre de 1902 où il y a eu le mea culpa de Cartaya, qui était un grand préhistorien de l'époque, qui a dit oui, ben, je reconnais, je me suis trompé, c'est vraiment les pas. Ben là, moi, je dis peut-être qu'on est dans la même erreur. Peut-être que c'est les Néandertaliens ont fait de l'art. Peut-être que certaines peintures qu'on a attribuées sans les dater, parce que on a daté peu de peintures, peu de gravures, ont été peut-être réalisées déjà par les Néandertaliens. Mais c'est très difficile, voilà, il faut prouver. Bref, il y a débat, et à chaque fois, vous savez, on a débattu sur le langage articulé, on a débattu si c'était un grand chasseur, pendant un moment c'était qu'un charognard. Enfin, je veux dire,
Fois, il faut se battre pour faire accepter les avancées sur l'homme de Néandertal.
Voilà, et les prédécesseurs, c'est pas que lui, c'est tous les prédécesseurs à l'homo sapiens que nous sommes.
Oui, c'est ça.
Mais nous sommes des homo sapiens sapiens, hein, au niveau de la sous-espèce. Peut-être qu'actuellement, avec les nouvelles découvertes, la notion d'espèce, c'est à revoir. Néandertal, vous savez que nous, les Eurasiatiques, on a entre 1 et 4% de gènes néandertaliens.
Oui, nous.
Nous, les nous, Eurasiatiques,
vous
pas les
moi,
Africains.
Marie-Hélène Patoumatis, voilà. Et moi, on a combien 1 à 3%
entre
de gènes de néandertaliens.
Entre 1 et 4%. Et donc, cela, ça change beaucoup parce que ça veut dire qu'il y a eu des métissages, ça veut dire qu'il y a eu des enfants et ces enfants n'étaient pas stériles, etc. Donc, actuellement, il y a un grand débat parmi les paléanthropologues. Peut-être qu'en fin de compte, c'est la même espèce et c'est des sous-espèces. C'est-à-dire que l'homme de Néandertal, l'homme de Denisovien, dont on vient encore de découvrir au Tibet, et nous, on serait de la même espèce. On serait simplement de sous-espèces. Espèces différentes. Donc c'est le débat actuel qui n'est pas tranché, où on discute ces notions d'espèces. Donc ça c'est très intéressant. Vous voyez le chemin parcouru. Si jamais d'un seul coup on mettait Néandertal donc dans la même espèce que nous. Débat.
Pretty glad that you're alone. You said she's scared of me. I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
Une journée particulière, Zoé Varier sur France Inter.
Marilyn Patou-Matisse, l'hiver 1985 bat des records de froid en France. C'est l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie. Le général Audran est assassiné par action directe. Mikhail Gorbatchev arrive au pouvoir en URSS et c'est le début de la perestroïka. Les Français Jean-Paul Kaufmann et Michel Seurat sont enlevés à Beyrouth. En juillet, les services secrets français font exploser le Rainbow Warrior dans le port d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. En décembre 1985, Coluche ouvre le premier resto du cœur sous une tente du 19e arrondissement. Ça vous dit quelque chose aussi. C'est...
Quand Coluche a ouvert ses premiers restos, il pensait que ça allait être éphémère. C'est triste. Il pensait que c'était momentané, que c'était quelque chose, parce que bon, l'année 85 n'était pas bien, qu'elle avait été froide, que bon, les circonstances faisaient qu'il y avait des pauvres, fallait faire quelque chose. Mais tout ça, ça allait s'arranger. Mmh. Qu'on allait trouver des solutions, qu'il n'y aurait plus de gens dans la rue, qu'il n'y aurait plus de gens qui auraient ni froid, ni faim, et c'est en ça que c'est quelque part émouvant et que on se réjouit pas, chaque année d'entendre la chanson.
Non,
moi ça me réjouit pas. Ça veut dire que ça continue et que voilà, on achète peut-être plein de disques, les gens achètent, mais tant mieux, ça fait fonctionner les Restos du Cœur, mais quelque part, quelque chose ne marche pas dans la jugulation de ces problèmes qui sont quand même pas énormes, c'est quand même pas à notre échelle, nous quand même nos richesses, la France est quand même un grand pays qui a des moyens là, c'est pas possible, je trouve que ça soit encore nécessaire d'ouvrir des Restaurants du Cœur aujourd'hui.
Inacceptable.
Inacceptable.
En 1985, on dansait sur Tarzan Boy. Marilyn Patou-Matisse, vous saviez que ce tube, ça s'appelait Tarzan Boy? Parce que moi, je l'ai appris en préparant l'émission pour vous.
Ah non, moi non plus, je ne savais pas du tout.
Vous avez dansé?
Je ne savais pas du tout, mais oui, c'est quelque chose sur lequel j'ai dû danser un peu, peut-être pas en 85, mais plutôt en 86. Voilà, j'ai fait beaucoup la fête en 86, surtout. Mais c'est drôle, là, c'est des choses un peu, là aussi des clichés, quoi.
Sur, ouais, des représentations.
Des représentations, ouais. Voilà, Tarzan, King Kong, on est dans des représentations.
En 1985, est-ce que vous vous rappelez du film qui remportait le meilleur César, le César du meilleur film, pardon?
Oula,
non, un très joli conne. Film qui a marqué nos mémoires. Ouais. C'était Trois hommes et un couffin de Colin Serrault.
Michel, viens voir. Viens voir ce qu'il y a sur le palier.
Mais quoi?
Mais viens voir, je te dis vite. Ça pourrait être une surprise, c'est une surprise.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Ben tu vois, c'est un couffin avec un bébé dedans et une lettre dessus. Voilà. Très cher Jacques, voici le fruit de nos amours, prends-en bien soin. Je pars pour 6 mois aux États-Unis, c'est une fille, elle s'appelle Marie, bon courage Sylvia. Tu sais, le grain de beauté à l'ange droite. Il semblerait que ce soit un petit cadeau de Jacques pour nous amuser, ce que je dis.
Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Tiens, elle se réveille. Tiens, elle rigole. Maintenant, elle pleure.
Ah non, ça c'est pas possible, ça va pas se mettre à pleurer.
Ça devient sérieux même.
Oh non, c'est tout moche. Qu'est-ce qu'on va faire? On est une pipe.
Alors là, elle pleure pour de bon.
Mais qu'est-ce qu'elle a?
Elle a peut-être faim.
Qu'est-ce qu'il faut faire?
Bah, lui donner à manger peut-être.
Mais quoi?
Ah, ça. Demande à la pharmacienne.
Ça, c'est une bonne idée. Merde, c'est fermé, c'est dimanche.
La pharmacie garde.
Bon, j'y vais. Hé, tu prends la petite en attendant, hein?
Comment ça, je prends la petite? J'ai jamais porté ce bébé, moi, je vais la faire tomber.
Vous l'aviez vu ce film?
Oui, je l'ai vu après, pas à sa sortie évidemment, je pouvais pas, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que en fin de compte, d'une façon très très drôle, très amusante, ça montre quand même que pendant très longtemps, les hommes se sont peu occupés des enfants, surtout des enfants en bas âge. Je crois que l'éducation était pour les un peu plus grands, ils s'en sont bien occupés même à ces périodes-là, mais pendant très longtemps, voilà, ils savaient pas mettre des couches. Donc on voit très bien que là, il y a un tournant.
Ouais, c'est vrai que c'est daté.
C'est un tournant. étonnant parce que, en fin de compte, d'un seul coup, on va se poser la question et pourquoi ils ne savent pas le faire.
Mais maintenant ils savent un petit peu
maintenant,
plus.
Maintenant ils savent. Oui, oui. Alors, moi, je pense que surtout les jeunes, hein, je vois la génération de ma fille, oui, ceux qui ont entre 25 et 30 ans là, ils savent quand même.
Ils sont au point.
Oui.
Alors ça, c'est un petit cadeau maintenant, Marilène Patoumatis, pour clore cette émission. C'est vraiment un cadeau.
Vous avez dit aussi dans votre livre que Hollywood avait été de tout temps un grand centre d'activité. Et
oui, parce qu'on y trouvait des squelettes de mammouth.
Des squelettes de mammouth.
Comme rue Saint-Jacques à Paris, qui est également un lieu de haute et vieille et antique civilisation, puisque la rue Saint-Jacques était primitivement un tracé de transhumance de mammouth. C'est vrai, quand ils ont construit l'Institut océanographique du prince de Monaco, la rue Saint-Jacques, en creusant les fondations, ils ont mis à jour, je crois, 7 squelettes complets de mammouth.
Est-ce que dans toutes les grandes capitales, on n'a pas trouvé des squelettes de mammouth à Pékin, par exemple?
À Pékin, oui, il y a une série de villes, ça sera amusant à étudier.
Marilène Patoumatis, c'est Blaise Cendrars que vous venez d'entendre.
Oh, ça c'est super, je ne connaissais pas du tout.
Vous ne connaissiez pas
un cette... grand merci parce que je ne connaissais pas du tout cette interview où Blaise Cendrars s'intéresse aux mammouths.
Dans la rue Saint-Jacques.
Oui, dans la rue Saint-Jacques, ça c'est sûr qu'à Paris, il y a plusieurs endroits, dont la rue Saint-Jacques, où on a trouvé des squelettes de mammouths, on a trouvé même des témoignages que les hommes vivaient.
Ouais.
Vivait à Paris, bien sûr. Il y a eu des campements à Paris, bien sûr.
Mais vous avez une tendresse, Marilène Patoumatis, pour les mammouths. Vous leur avez consacré un ouvrage entier.
Oui.
Vous les aimez bien.
Je les aime bien et c'est surtout un animal, c'est un peu bateau, mais emblématique. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses avec lui. On est à la fois dans les expéditions. D'un seul coup, on va chercher le détroit de Bering, hein. On va passer par les glaces, et là, d'un seul coup, on va voir des îles, Yakov, là, couvertes de squelettes. On voyage avec ces navigateurs du 19e, fin 18e, 19e. On va aussi être avec les géants, le mythe des géants. D'un seul coup, voilà. Tous nos ancêtres étaient géants parce qu'on pensait que c'était les fémurs de nos ancêtres et c'était fait du mur de mammouth. La licorne, avec la défense qui ressemble à la licorne. Bref, on est en pleine mythologie en permanence. La réalité. Imaginez nos ancêtres s'attaquer aux mammouths, voilà, avec des épieux, des staguets. Bon, donc c'est formidable. Puis aussi, c'est regardez les représentations qu'en ont fait les hommes préhistoriques dans les grottes. C'est-à-dire que c'est un animal qui était un symbole, probablement, ça nous échappe. Donc il est passé de la simple viande, si vous voulez, à quelque chose de plus dans la symbolique.
D'un mythe. Vous, Marilène Patoumatis, est-ce que vous rêveriez de découvrir un mammouth congelé ou un homme de Néandertal congelé?
Alors, je sais que tout le monde s'amuse, tout le monde se moque un peu de moi, mais c'est vrai que, là je suis très sérieuse, on trouve des mammouths congelés. Et je dis toujours, pourquoi pas trouver l'homme? Parce que on sait que les hommes sont passés, certains, par le détroit de Bering. Ils sont passés justement par le nord de la Sibérie, etc. Donc, pourquoi ne pas trouver? On trouve tout, on trouve des bisons, on trouve plein d'animaux congelés, des animaux préhistoriques. Et donc, je me dis, pourquoi pas un homme? Et alors, le rêve des rêves, c'est là où je fantasme, carrément, faut le dire. Voilà, c'est de trouver un Néandertalien, parce que savoir s'il a été jusqu'au nord, on sait qu'il était au sud de la Sibérie, mais est-ce qu'il est monté jusqu'au nord? Et alors, pour arrêter cette histoire d'art, vous voyez, de dire tatoué, vous voyez, avec des beaux tatouages, parce que comme ça, on pourrait pas dire qu'il savait pas. Alors, bien sûr, c'est une joke, c'est une plaisanterie, mais ça peut arriver qu'on trouve, là, je reviens, ça peut arriver qu'on trouve un homme congelé. Puis, c'est bien, parce que congelé, ça veut dire qu'on connaît bien tout, à la fois l'extérieur, l'intérieur et tout, parce que nous, on a que les squelettes, hein, sinon.
Ben c'est tout ce que je vous souhaite, Marilène Patoumatis. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. C'était passionnant.
Merci à vous. C'était très agréable. Merci beaucoup.
Votre dernier livre, Néandertal de A à Z, est publié aux éditions Alary et tous vos précédents ouvrages aux éditions Odile Jacob. De toute façon, votre bibliographie est sur le site de l'émission. Merci. C'était une journée particulière. Une émission préparée par Rebecca de Nantes, Alina Anne de Lavaux, à la réalisation Flora Bernard, à la programmation musicale Djoubaka et à la technique Guillaume Roux. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter et surtout podcaster toutes les émissions, et celle-là en particulier, sur le site de France Inter. À la semaine prochaine.
Tout de suite après le flash, vous retrouverez Vincent Josse et son grand atelier. À la semaine prochaine.